Chapitre 4. Tunis, 13 juillet. Rien de moins oriental à l'abord que Tunis. Le vaste lac aux eaux plates qui l'isole de la mer manque de pittoresque. Vu du port, Tunis n'a guère l'aspect d'une ville des mille et une nuits. Devant nous s'allonge un quai grisâtre et poudreux. Ça et là, quelques arbres desséchés, des docks, des baraquements. Mais où donc est Tunis la Blanche? Elle existe cependant, cette Tunis arabe, mais elle se cache derrière la ville franque, derrière la ville à large boulevard, à hôtel et à tramway. Elle existe, mais il faut, pour y pénétrer, avoir franchi sa haute porte à créneaux. Derrière cette porte commence une contrée nouvelle. Des rues étroites et anguleuses longent des maisons blanches, se glissent sous des passages voûtés, aboutissent à des carrefours, se faussent à des impasses. Des silhouettes drapées et voilées y circulent, énigmatiques et silencieuses. Sur des places ensoleillées se tiennent des marchés de légumes et de fruits. Des petits ânes frappent le pavé pointu de leurs sabots secs. Des rumeurs de tambours et de flûtes sortent des cafés clos. C'est la Tunis des burnous et des voiles, la Tunis orientale et secrète, celle qui résiste encore à l'invasion européenne, celle qui se résume dans le labyrinthe de ses bazars, dans le dédale de ses souks. Ce souk de Tunis, d'ailleurs, n'est pas déjà plus purement oriental. La camelote française, italienne et allemande s'y étale outrageusement. Malgré cela, il montre encore d'amusantes boutiques. On y trouve des tapis vivement et pittoresquement colorés, des étoffes aux curieuses bigarrures, des gazes légères traînées d'argent ou des babouches de cuir ouvragé, des sparteries et des parfums. Certes, tout cela, transporté dans un magasin de Paris, ne nous tenterait guère, mais dans l'ombre poussiéreuse et fraîche des longues galeries voûtées, toutes ces choses prennent une vie et un charme qu'elles n'auraient pas chez nous. Un peu du vieil Orient qu'elles évoquent et continuent encore en elles et autour d'elles. Elles font songer à des caravanes et à des palais, à des minarets, à des coupoles, à des salles de faïence, à des danses, à des jardins, où dans les vasques des fontaines flottent des roses cueillies et des têtes coupées. Elles ont je ne sais quoi de secret, d'attirant, de singulier, de lointain. Un antique mystère les habite. C'est sans doute ce sentiment qu'a éprouvé Laure de Lérins, car dans les promenades que nous avons faites au souk, elle a acheté de nombreux objets. Elle ne résiste guère à la grâce sultanesque de telle écharpe, à l'élégance de certaines gandouras. Elle est la première à sourire de ses acquisitions. Ce soir, elle les a fait étaler toutes sur le pont. Elle semblait les considérer avec quelque mélancolie. « Mais pourquoi êtes-vous triste, Laure ?» lui dis-je. Elle tourna la tête vers moi. Elle tenait entre ses mains une longue et souple écharpe de gaze tramée de fils d'argent. Tout à l'heure, dans l'étroite boutique du souk où le marchand nous la montrait, elle nous avait paru subtile et singulière, cette gaze qu'on eût dit tissée au clair de lune sur quelques terrasses de Bagdad. Ici, dans la lumière crue des lampes électriques, elle apparaissait infiniment moins séduisante. D'un geste découragé, Laure la laissa retomber. Elle s'aplatit, s'affaissa comme une chose morte. Laure soupira. « Oh non, je ne suis pas triste, mon pauvre Delbray, mais tout de même, enfin, que voulez-vous? Voici bien les tours que nous joue notre imagination. On croit avoir retrouvé le Zaïmph de Salambo et l'on ne tient dans ses mains qu'un vulgaire tissu. Mais vous devez savoir cela mieux que personne, incorrigible rêveur. » Elle me considérait d'un air affectueux, tendre et mélancolique. Puis elle a pris sur la table, posée auprès de ses gants, une mince et fine fiole remplie d'essence de rose, et la respirai longuement en silence. Le parfum en vint jusqu'à moi. Au loin, le lac de Tunis miroitait sous le ciel étoilé. Il s'exhalait de ses eaux lourdes une senteur bitumeuse qui se mêlait à l'odeur des roses proches. On eût dit l'haleine de l'amour et de la mort. Tunis, 7 juillet. Cette odeur de bitume du lac de Tunis est si forte que nous nous sommes décidés à aller passer 2 jours à Kairouan. Antoine même a consenti à nous accompagner. Quoi qu'il en dise, et malgré ses jérémiades, sa santé se rétablit à vue d'œil. Il mange, boit et dort excellemment. Ce mois de vie maritime l'a transformé. Ce n'est plus le malade ni le convalescent d'il y a quelques semaines. Antoine commence à reprendre goût à l'existence. Il a rallumé ses gros cigares et il a retrouvé cette confiance en lui qu'il avait perdue. De nouveau, il fait rougir la bonne Madame Bruvane par ses propos. Néanmoins, il est toujours pour l'avenir hors de sales dispositions et il jure qu'il ne recommencera plus à mener le genre de vie dont il a failli payer cher les excès et les folies. Malgré ses protestations, je crains bien un peu, pour ses belles résolutions, le retour à Paris. La pauvre Madame Bruvane n'en a peut-être pas fini avec ses soucis de tante poule, et ce ne sera pas trop de toute l'influence du docteur Tullier pour maintenir au régime cet incorrigible client. Aussi Madame Bruvane le considère-t-elle parfois avec un amusant mélange d'admiration et de terreur. Son admiration va aux forces revenues d'Antoine, et sa terreur redoute l'usage qu'il en pourra bien faire. Quoi qu'il en soit, il est revenu fort gai, si gai même que Madame de Lérins a dû accueillir froidement les plaisanteries par trop risquées auxquelles il se livrait à son intention. Bon, il se l'est tenu pour dit et ne semble pas lui en vouloir. Pendant tout le trajet de Tunis à Kairouan, il a été plein de prévenances pour elle. Un peu pénible d'ailleurs ce trajet, car dans le wagon, il faisait une chaleur extrême, et le parcours n'a rien de particulièrement pittoresque. Nous étions aussi quelque peu inquiets de la nuit que nous passerions dans la ville sainte. Heureusement que Kairouan possède un hôtel supportable. Il est situé non loin de la gare, en dehors des murs de la ville arabe. C'est une grande maison à la française, avec des persiennes vertes, en face d'un maigre jardinet au milieu duquel se tarit à demi un petit bassin de square. À l'intérieur, nous avons trouvé de vastes chambres, sommairement meublées, et où nous avons dormi, tant bien que mal, après un excellent dîner. Le matin, tout le monde était debout de bonne heure, mais malgré cette précaution, la chaleur était déjà forte quand nous pénétrâmes dans Kairouan par sa porte crénelée. Pas un souffle n'agitait l'air embrasé. C'était accablant et magnifique. Cette porte guerrière s'ouvre sur la rue principale de Kairouan, la seule où il y a quelques boutiques à l'européenne. Sauf cette rue, Kairouan est un lacis inextricable de ruelles brûlantes et poussiéreuses, resserrées entre des maisons blanches qui s'entrecroisent, se rejoignent. Parfois, par une échappée, apparaît un bout des hautes murailles sarrasines qui entourent la ville et protègent sa mosquée antique et vénérée. Nous y sommes arrivés après avoir erré dans les souks et suivi de nombreuses petites rues désertes. Une vaste cour dallée de marbre blanc la précède, qui domine un minaret carré dressé haut dans le ciel d'un bleu dur. En face de ce minaret, la mosquée s'étend, casquée de ses coupoles. Une longue galerie couverte la précède, dont le plafond de bois sculpté laisse pendre de grandes lanternes. Sur cette galerie s'ouvrent les portes du sanctuaire. Elles sont très vieilles et d'un bois très précieux. La mosquée de Corouan est la mosquée des colonnes. Elles jaillissent du pavage en une multitude harmonieuse. Elles forment des allées, des enfilades. Elles sont faites des marbres les plus divers. Il y en a de marbre vert, il y en a de marbre rose, il y en a de marbre rouge. Elles sont des provenances les plus différentes, grecques, byzantines ou romaines. Elles ont soutenu des frontons de temples, des porches de palais, des voûtes d'églises. Quelques-unes ont été plantées à l'envers et à leurs chapiteaux leur servent de base. Il y en a même deux qui sont si rapprochées l'une de l'autre que lorsqu'on peut s'insinuer entre leurs fûts, c'est une marque, dit-on, que l'on entrera au paradis. Elles sont le mystère et la beauté de cette mosquée obscure et silencieuse, fraîche en son ombre vénérable, où l'on entend pour seul bruit le claquement de nos babouches qui clapotent à nos pieds comme si nous marchions dans de l'eau. À chaque pas, l'on s'attend à ce que rejaillisse le paysage miroitant. À déjeuner, Gernon s'est montré extrêmement fier d'avoir pu passer entre les colonnes de l'épreuve. Et il adressait des clins d'yeux à Madame Bruvane, qui feignait de ne pas comprendre. Quant à moi, je n'ai pas essayé de savoir si j'entrerais jamais au paradis. Ô cœur troublé, tu redoutes les présages. Au coucher du soleil, nous sommes retournés à la mosquée et nous sommes montés au minaret pour admirer la vue de la ville. À nos pieds, Kerouan s'étendait dans le cercle guerrier de ses murailles. Elle étalait le blanc dallage de ses toits à terrasse, traversé par les rainures des rues et boursouflé de dômes courbes. En dehors des murs, jusqu'à l'horizon, ondulait une terre cendreuse et dépouillée. Çà et là, quelques groupes de figuiers épineux. Là-bas, un campement de bédouins dressait ses tentes noires. Il se dégageait de ce spectacle une indéfinissable impression de solitude et de barbarie. Aussi quel réconfort que le sourire d'un visage aimé, que le son d'une voix amie. Tandis que le compagnon redescendait l'escalier du minaret, nous sommes restés, Laure et moi, un moment seuls sur la plateforme. Alors je me suis imaginé, aux eux partis, que nous ne les retrouverions jamais. Ils s'en allaient pour toujours, nous laissant dans cette ville étrangère. Et tout à l'heure, lorsque le soleil serait couché, nous descendrions à notre tour. À travers le dédale des rues, nous gagnerions quelques maisons mystérieuses et blanches. Mais tout à coup, d'en bas, j'ai entendu la voix d'Antoine qui nous appelait.
17 juillet, en mer.
Nous avons quitté Tunis et nous longeons la côte d'Afrique pour gagner Alger. De là, il a été convenu que l'on visiterait quelques ports d'Espagne et que l'on terminerait la croisière par les îles Baléares. Après la forte chaleur de Tunis et la fournaise de Kérouan, le souffle du large nous vivifie agréablement. La grande tente blanche de l'amphisbème nous abrite du soleil. Nous y avons repris nos places accoutumées. Gernon a oublié sa colère crétoise et il continue à adresser à Madame Bruvane ses galanteries ordinaires. Antoine a sorti ses fusils de leurs étuis et il s'amuse à abattre des mouettes et des oiseaux de mer. Le Subani trouve le temps un peu long, bien que M. Subani, pour se distraire, ait occupé son séjour de Tunis à se faire photographier en chef arabe par divers opérateurs. Mais il lui tarde de retrouver son masseur et ses soins hygiéniques habituels. Quant à l'eau, elle reste volontiers silencieuse. Je me sens repris auprès d'elle d'une nouvelle timidité et de mes anciennes angoisses. Mon sort se décide peut-être en ce moment dans ses pensées. Même date. Et pourquoi lui redirai-je encore mon amour? Elle le sait.
Elle le sent autour d'elle, inquiet, attentif. Elle sait que la moindre de ses paroles a mille échos dans mon cœur. Qu'ajouterai-je donc à mes aveux? Tout de moi n'est-il pas un aveu continuel, une muette et vivante supplication? Parfois, je cherche à définir le singulier pouvoir qu'elle a sur moi. Comment ce grand, ce profond amour a-t-il pris naissance? Aucun événement romanesque ne l'a favorisé, aucune de ces rencontres qui frappent l'imagination. Et pourquoi, dès que je l'ai vue, ai-je senti qu'elle était celle que je devais aimer, pour qui ma vie était faite? Cette certitude, rien ne l'a préparée. J'ai cherché plus d'une fois, cependant, à raisonner mon amour. Ma passion a tâché de se faire pointilleuse et malveillante. J'ai essayé de dépouiller l'or du prestige qui la revêt à mes yeux. Je lui ai prêté des calculs et des intentions. J'ai mêlé à mon amour de la jalousie. J'ai tenté de penser d'elle des choses défavorables. J'ai chicané sa grâce et sa beauté. J'ai voulu lui trouver des défauts. Et tout à coup, il suffit d'un mot, d'un geste, d'un regard, pour que tout cela s'évanouisse, disparaisse. Il se fait en moi comme un rayonnement, comme une lumière, au centre de laquelle elle se dresse, victorieuse. 19 juillet, Alger. Nous sommes mouillés dans la rade, assez loin du quai. De la place où nous sommes, la ville se développe devant nous en amphithéâtre, et c'est très beau. Alger, pourtant, ressemble à nos villes de France. Mais elle a, vu ainsi de la mer, je ne sais quoi de théâtral et de triomphant. Marseille même n'a pas cet aspect étagé et pompeux. J'aime cet air de ville de conquête qu'Alger a. N'a-t-elle point en effet une ville guerrière? Peu à peu, elle a dévoré l'antique cité barbaresque, dont il ne reste que quelques vestiges, de jour en jour diminués, sur le port de la vieille mosquée, de la pêcherie, et là-haut, les blanches maisons de la Casbah. Cette Casbah, dont nous apercevons d'ici la tache orientale, elle est la partie d'Alger qui nous attire, Madame de Lérins, c'est moi. Nous y avons retrouvé les rues étroites de Tunis et de Kairouan, pleines d'angles mystérieux, de passages secrets, mais auxquels s'ajoutent ici les surprises de leurs pentes roides, de leurs escaliers inattendus. Nous y avons marché à l'ombre des murs blanchis à la chaux. Nous y avons rôdé, frôlé par la laine d'un burnous ou effleuré par la gaze d'un voile. Nous nous y sommes promenés en tenant à la main des chapelets de fleurs de jasmin liés par un fil. Faisait beau et chaud. Les fleurs odorantes se balançaient à mes doigts. Une minute, nos chaînes de fleurs se sont emmêlées et nous nous sommes trouvés liés par des pétales, liés par des parfums. Ah, ce doux nœud! Je l'eusse voulu inextricable, plus compliqué que le labyrinthe des petites rues arabes. Et j'ai repensé à ces enfants de Bonifacio que nous avions vu au début de notre voyage, qui jouait à l'amour sur l'esplanade de la vieille citadelle corse. Puissent-ils avoir été un présage auquel s'ajoute celui de nos mains enchaînées? Alger, 20 juillet. Comme je flânais sous les arcades de la rue Bab Azoum, je me suis heurté à un monsieur qui rôdait le nez en l'air, et en qui j'ai reconnu avec stupeur mon ami Yves de Kerambel. Oui, Yves de Kerambel en personne. Après les exclamations d'usage, nous sommes allés nous asseoir dans un café de la place du gouvernement. Je ne sais si c'est le voyage qui l'a transformé ou l'héritage de la bonne tante Guildic, mais je n'ai jamais vu Yves si bavard et si expansif. Tout d'abord, il m'a fallu écouter le récit circonstancié des derniers moments de Madame de Guildic, puis la recherche, de meuble en meuble, du testament de la défunte, et la trouvaille du précieux papier par lequel Yves devenait l'unique héritier de 30 000 livres de rente en obligations de chemin de fer et en actions de la Banque de France, et le possesseur d'un domaine considérable situé dans les environs d'Alger. Je savais tout cela en gros par la lettre qu'Yves m'avait écrite et que j'avais reçue à Naples, mais il éprouvait un si naïf plaisir à m'exposer ce qui était le grand événement de sa vie que je n'avais pas le courage de l'interrompre. Ce qui surprenait le plus Yves de Kerhomel en toute cette affaire était ce domaine algérien. Comment sa tante en était-elle devenue propriétaire? Comment cette vieille dame sédentaire et qui semblait tout ignorer des affaires avait-elle acquis cette vaste propriété? Et comment, de loin, sans connaissance agricole et commerciale, l'avait-elle administrée avec une rare habileté? Car Yves, après avoir pris le bateau pour venir se rendre compte par lui-même de l'état de ses nouveaux biens, avait trouvé l'exploitation en parfaite prospérité. La bonne tante de Guilledic, avec son petit bonnet et ses papillotes grises, avait été un administrateur colonial de premier ordre. De tout cela, Yves de Kerhomel exultait. D'ailleurs, il était transformé. Je ne reconnaissais plus en lui le petit hobereau guérandois, minutieux et étriqué, coiffé d'un chapeau d'huissier et vêtu d'une redingote de notaire. La fortune l'avait tout à coup épanoui. Maintenant, il parlait haut et gesticulait. Il avait pris subitement de l'aplomb et de l'autorité. Depuis une quinzaine de jours qu'il était à Alger, il avait adopté une tenue vraiment coloniale. Tout de blanc habillé, il savait déjà quelques mots d'arabe et ne jugerait plus que par Mahomet. Qu'aurait-on dit à Guérande si on l'avait vu ainsi? Je lui en fis amicalement la remarque. Il se mit à rire. Guérande, oh, il jurait bien de n'y jamais retourner. Maintenant qu'il était riche, que ferait-il dans cette bicoque où il avait passé les plus belles années de son existence à vivre comme un rat? Oh, par exemple, il en avait assez de la province. C'en était bien fini des promenades à petits pas sous les arbres du Mail et des parties d'écartés avec le receveur de l'enregistrement. C'en était fini aussi de la grise Bretagne, de ses brumes et de ses pluies. À présent qu'il avait goûté du soleil d'Afrique, il ne voulut plus entendre parler de la pâle lumière d'Occident. Ah, Guérande et les Guérandois, ne le reverraient guère. Il avait l'intention de louer un pied-à-terre à Paris et de s'installer définitivement en Algérie, tantôt dans la propriété de la tante Guilledic, tantôt à Alger même. J'écoutais avec étonnement les discours enthousiastes d'Yves de Kerhomel. Il me suggérait de rapides réflexions. Il est donc vrai qu'il y a un moment où, grâce à certaines circonstances fortuites, la vie s'épanouit en nous, où tout à coup nous nous découvrons autre que nous croyions être, où quelque événement imprévu nous révèle soudain nous-mêmes. Un être inconnu s'éveille en nous avec des désirs nouveaux. D'ordinaire, c'est l'amour qui produit en nous cette transformation. Quelquefois, c'est l'argent qui joue ce même rôle pour certains. C'est le cas d'Yves de Kerhomel. Quelques pièces d'or et le voilà presque un autre homme. Mais de quel droit sourirais-je de mon guérandois? Ma situation ressemble à la sienne. J'ai rencontré l'or de l'Hérins et mon cœur a battu plus vite. Mon sang a coulé plus ardent dans mes veines, ma vie a retrouvé son but. Cependant, nous avions quitté le café et Yves de Kerhomel m'a reconduit sur le port. Comme nous arrivions en vue de la rade, il m'a dit « Ah, mon vieux, est-ce beau tout cela? Ce soleil, cette lumière, et dire que sur la bonne tante Guilledic, je n'aurais sans doute jamais connu ce pays. Et quel pays, car tu sais, il y a ici des femmes épatantes et de toutes les couleurs. Des Espagnoles, des Maltaises, des Négresses, des Bédouines. Oh, je te dis que ça, elles valent le voyage.
Tiens, si tu veux, je te ferai faire la connaissance d'une petite Kabyle qui m'a procuré le tchaouche de l'hôtel, un nommé Hassan. Oh, tu verras si je mens. Non? Oh, cela ne te dit rien. Eh bien, tu ne me refuseras pas de venir avec moi passer une journée dans le domaine de la tente juridique. C'est convenu, n'est-ce pas? Ah, oh, c'est ça ton bateau. Oh, il est rudement bien, bigre. Nous étions sur le quai. Yves de Caramel désignait du geste l'amphisbène, ancré dans la rade, et dont l'élégante silhouette se détachait sur la pureté bleue du ciel. Alger, 2 juillet. Yves de Caramel a dîné ce soir à bord de l'amphisbène. Pourquoi ai-je accepté de faire avec lui cette excursion au domaine de la tente guidique? Cette visite ne m'amuse guère, et j'ai presque été sur le point de me dédire de ma promesse, mais le pauvre Caramel en aurait été navré. Il tient à me montrer les marques de sa nouvelle prospérité. Et puis Antoine se serait moqué de moi. Depuis quelques jours, il me traite avec un mélange quelque peu agaçant d'ironie et de commisération. Je sens, lorsque j'accompagne Madame de Lérins et que je lui rends quelques menus services, qu'Antoine me plaint de mon esclavage. Quand Yves de Caramel a parlé devant lui de la courte absence que nous devions faire ensemble, Antoine a pris un air d'incrédulité exaspérante. Il ne me voyait pas m'éloignant même pour quelques heures de Madame de Lérins. Cette attitude a été pour beaucoup dans mon acceptation définitive. L'homme le plus amoureux ne se dépouille jamais entièrement de tout respect humain. Aussi ai-je sottement voulu prouver à Antoine que je pouvais me passer, quand il le fallait, de Madame de Lérins, et j'ai consenti à la proposition d'Yves. Quant à Antoine, invité à prendre part à notre expédition, il a préféré rester sur le yacht.